Débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans RFI Soir, sale campagne, c'était ce que titrait hier le journal du dimanche. À moins d'un mois du premier tour de la présidentielle française, les affaires continuent de faire la une. Il y a évidemment le Fillon Gate avec à chaque semaine, presque chaque jour, sa nouveauté, des emplois fictifs, des costumes, des montres, l'affaire Leroux ou encore l'affaire des assistants parlementaires européens du FN, des affaires omniprésentes donc, rendant la campagne irrespirable. Selon certains, totalement coupé des questions de fond. Pour d'autres, des affaires sorties à propos pour fausser l'élection, selon François Fillon.
Je suis aujourd'hui la cible d'une attaque impitoyable, partiale, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est équitable? C'est à vous de répondre, et pas au tribunal médiatique.
Affaire, les médias en ont-ils trop fait? C'est donc notre sujet de ce soir. Bienvenue.
RFI.
Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. Claude Angéli, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chroniqueur et ancien rédacteur en chef au Canard Enchaîné pendant une trentaine d'années, je crois. Vous avez relancé l'affaire Fillon dans différentes enquêtes qui sont parues ces dernières semaines dans le journal. Vous êtes aussi le co-auteur avec Pierre-Édouard Deldic, que nos auditeurs connaissent bien, d'un livre qui s'intitule « Les plaisirs du journalisme » paru il y a quelques jours, quelques semaines aux éditions Fayard. En face de vous pour discuter, Arnaud Mercier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Institut français de presse, l'IFP, aussi à l'Université Panthéon-Assas. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont « Médias et opinion publique », paru au CNRS Éditions en mars 2012, et un peu plus tôt, 4 ans plus tôt, « La communication politique » aux mêmes éditions du CNRS. Alors Claude Angéli, je voulais évidemment commencer avec vous. Est-ce que le Canard Enchaîné fait de la politique, comme semble le dire François Fillon et son camp? Et d'ailleurs, ils ne sont pas les seuls en ce moment.
Non, en tant que membre du tribunal médiatique, très enrhumé, excusez-moi.
Mais c'est pas grave.
Il aurait mieux valu que Fillon nous dise que tout ce que le Canard a écrit est faux, les chiffres qu'il donne sont faux, tout ce que Mediapart, tout ce que le journal du dimanche, tout ce qu'Élise Lucet a sorti à la télévision, tout ce qu'une autre télévision, je crois TCM, a sorti.
TMC,
pardon. Et sur les costumes et tout, pour arriver à ce ridicule absolu que j'ai vu à la télévision, Fillon dit « J'ai rendu les costumes. Je les avais mis, mais je les ai rendus. J'ai fait une erreur. » Bon, les erreurs, il en a fait beaucoup. Et y compris, à un moment donné, de cacher à sa femme qu'il l'avait embauchée. Parce que c'est quand même cela. C'est pour cette raison. Parce que Madame Pénélope Fillon n'est pas sotte. À la télévision du Sunday Telegraph, elle dit « Je ne suis pas l'assistante de mon mari. Je ne... suis pas chargée de sa communication, alors qu'elle est payée à ce moment-là. »
Alors, rappelons que le procès n'a pas commencé,
donc
ça n'est pas encore jugé. Mais donc, pour vous, ce que vous nous dites, c'est que finalement, loin d'être à critiquer la presse, les médias ont fait leur travail.
Mais, bien entendu, ils ont fait leur travail, mais surtout, les hommes politiques ne se surveillent pas, comme vous pouvez le remarquer beaucoup. Et que ce soit Fillon, qui ensuite... on ne le savait pas, annonce qu'il a employé ses enfants. Il dit qu'ils ont été avocats. C'est Mediapart, je crois, qui révèle qu'ils étaient seulement étudiants.
Voilà, que la temporalité ne correspondait pas.
Alors on se précipite pour chercher les salaires et on publie les salaires à l'euro près. Est-ce que François Fillon, qui avait annoncé qu'il allait porter plainte, pas porter plainte naturellement, a dit que ses salaires étaient faux? Après, on apprend qu'il les a fait rembourser en partie. Ils remboursaient leur argent de poche ou un mariage organisé dans son manoir.
Donc pour vous, pas de doute, la presse a fait son travail. Arnaud Mercier, quel est votre regard? Est-ce que on peut considérer que les médias en France font de la politique, qu'ils roulent pour ou contre certains candidats?
D'abord, il va sans dire, rappelons quand même un tout petit peu l'histoire, que la presse française s'est construite comme étant une presse d'opinion. Donc il y a beaucoup de titres de presse qui ne cachent pas leur engagement, plutôt à gauche comme Libération, plutôt à droite comme Le Figaro, centre-gauche ou gauche, ça dépend des époques pour Le Monde. Enfin bref, il y a une tradition, il n'y a pas de raison. Pour le Canard Enchaîné, c'est plus compliqué parce que le Canard Enchaîné tape à peu près sur tout le monde. François Mitterrand en a pris pour son grade à l'époque où il était président de la République. De ce point de vue, le Canard Enchaîné fait de la politique, mais pas de la politique politicienne. Au sens, il contribue au débat politique, il apporte un éclairage, notamment sur les mœurs politiques. Et de ce point de vue, je pense que les médias ont raison de faire leur travail, et il faut quand même être beaucoup aux abois et beaucoup de mauvaise foi du coup pour, dans le camp de François Fillon, dénoncer le fait que on vient s'occuper de ces turpitudes, puisque pour deux raisons, hein, eh bien d'abord parce que il faut être de mauvaise foi, parce que c'est quand même bien normal que quand on demande à être président de la République, on vienne s'occuper un peu des affaires. Je veux dire,
surtout quand on a fait sa campagne sur la moralité,
c'est la deuxième
ce qui
raison.
Lui a aussi été
voilà, et la deuxième raison, c'est le contraste entre ce qu'il dit qu'il est, l'image qu'il a cherché à projeter, et ce que peut révéler les choses. Donc, de ce point de vue, moi, je pense que
vous êtes tous les deux d'accord pour dire que la presse, finalement, a joué son rôle. Est-ce qu'il n'y a pas pour autant, et c'est un autre argument qu'on a beaucoup entendu ces dernières semaines et ces derniers mois, un problème dans l'ampleur du traitement de ces affaires, alors, Arnaud Mercier?
Alors, ça peut effectivement se discuter. Parce que c'est une mécanique qui est habituelle, que l'on voit pas seulement dans l'affaire Fillon, mais dans des tas d'autres choses. Il y a, moi, j'ai souvent l'habitude de dire que les médias fonctionnent à la loi de la concurrence inversée. La loi de la concurrence, c'est plus on est tous sur le même créneau, la même info, etc., plus on se dit, oh là, attention, il faut se différencier, moi je vais faire un... Donc dans les lois du commerce, il y a le marché de la godasse qui est complètement saturé, bon, bah, alors moi je vais faire que les baskets, moi je vais faire que les semelles orthopédiques, enfin, les sabots, enfin bref, on va essayer de se différencier.
Et dans la presse, en fait, c'est l'inverse. Il y a une affaire qui fonctionne médiatiquement, qui est importante, donc tout le monde le fait.
Il y a un mimétisme qui fait que quand on a le sentiment qu'il y a un éléphant qui est dans le couloir, n'importe quel média se dit « Ah non, nous, on peut pas ne pas en parler, parce que ça va faire bizarre, nos lecteurs, nos auditeurs vont pas comprendre qu'on soit les seuls à ne pas en parler, alors que tout le monde en parle. » Donc là, effectivement, il y a, ça c'est vrai, de temps en temps, des effets d'emballement, c'est parfaitement juste. Est-ce que ça s'applique parfaitement à l'affaire Fillon? Ça, j'en suis moins sûr, parce qu'une fois de plus, il est candidat à l'élection présidentielle.
Alors, Claude Angéli, le Canard Enchaîné, pour ceux qui ne le connaissent pas et qui sont des auditeurs qui ne sont pas français, ils sont très nombreux à écouter RFI, évidemment, on le sait. Le Canard Enchaîné, c'est un hebdomadaire. Donc, par définition, vous sortez une semaine, une seule fois par semaine. Comment vous regardez, après 30 ans de rédaction en chef, cette évolution aussi du paysage médiatique français avec des chaînes d'information continue, des radios d'information à continu, et donc cet emballement médiatique dont vient de nous parler Arnaud
Mercier? L'emballement médiatique est normal. Mais ce que je voulais dire, c'est aussi que c'est triste. C'est triste de voir les hommes politiques coincés dans des affaires aussi médiocres, aussi stupides. Prenez par exemple, le Canard a aussi parlé de Macron, qui a eu des ennuis avec le fisc. Pendant trois ans, il a été redressé pour son ISF, sur l'impôt sur la fortune. Bon, on a parlé de Madame Le Pen et de son entourage, qui est parfois un peu discutable, souvent discutable. Donc, on ne parle pas que de Monsieur Fillon. Je dirais même que lorsqu'on a sorti l'affaire Fillon, première semaine, il n'y avait plus de journaux le mercredi soir ou le jeudi matin. Donc, on n'a pas pensé que c'était un coup fabuleux. À tort, hein? À tort.
C'est presque une erreur que de ne pas avoir senti l'énormité de l'affaire, c'est ce que vous dites?
Je ne suis plus aux manettes et je n'interviens pas dans les décisions concernant le tirage. Mais là, je pense, et mes petits camarades l'ont ressenti, et la deuxième semaine, c'était, malgré une élévation du tirage, on a encore manqué de journaux. Bon, c'est la preuve qu'on n'est pas des marchands de papier, bien que le journal, c'est quand même un commerce. Et on doit vendre. Mais je veux dire, on n'est pas soumis simplement à cette idée qu'il va falloir trouver quelque chose à dire pour vendre. Et donc, on fait un peu, je dirais, un espèce de service civique. Quand on publie une petite radiographie, parce que la radiographie complète de la société, on n'y arriverait pas. C'est immense. Mais une petite radiographie de la société pour dire aux gens, voilà ce que vous devez savoir, voilà ce qu'on veut vous cacher, voilà ce que les partis politiques, les syndicats, les institutions comme la magistrature, l'armée, le Quai d'Orsay, tout, on cherche à nous cacher des choses. Disons, la transparence existe, mais malheureusement, les institutions la protègent trop. Et Le Canard, comme d'autres journaux, maintenant, on n'est pas seul et on est content de pas
être
seul.
Et vous les avez cités d'ailleurs au début de l'émission. Et il y a de nombreux
journaux. On est content qu'il y ait, disons, le journalisme d'enquête ait fait des progressions considérables en France, même dans des journaux qui étaient un peu inhabitués.
Alors, il y a un autre argument sur lequel j'aimerais avoir votre avis à tous les deux, qu'on entend aussi pour critiquer un petit peu la presse. Alors, dans cette affaire Fillon, dans cette campagne, mais c'est aussi beaucoup plus large, c'est la question du timing. François Fillon l'a dit plusieurs fois, Marine Le Pen aussi beaucoup sur les révélations sur les assistants parlementaires du Front National. Tiens, c'est étonnant, l'affaire n'est pas nouvelle et ça sort en ce moment. Alors là aussi, Claude Angéli, est-ce que quand Le Canard a sorti cette enquête sur l'emploi présumé fictif, en tout cas approuvé de Pénélope Fillon, vous avez choisi à dessein de le publier à un moment donné, non, alors que vous aviez l'information avant?
On a raconté ce qui s'est passé. D'abord, il y a eu une enquête, comme Fillon était quand même l'un des personnages importants de la présidentielle, on a fait une enquête sur sa société 2F. Je crois, c'est ça?
Oui, comme François Fillon, je crois.
Deux F, pour où il donnait des conseils à des grandes sociétés internationales ou françaises. C'est légal, on trouve que c'est un petit peu cavalier quand même que ce soit légal, parce qu'un homme politique qui donne des conseils, après, il est payé quand même par ses sociétés et tout. Bon, mais c'est légal. On pose des questions à Fillon, il répond. Il ne donne pas de détails sur les sociétés, on lui en repose un autre. Il répond. On a écrit tout ça. Hein. On repose encore des questions, il répond. Puis à un moment donné, on pose des questions sur les assistants parlementaires parce qu'on a entendu quelque chose, mais sans savoir. Et là, il ne répond pas. On réinterroge, il ne répond pas. Et là, on se dit, il y a quelque chose. Mes petits camarades se mettent à travailler et ils trouvent Pénélope Fillon. Et Pénélope Fillon, ils vont interroger des gens à l'Assemblée, ils vont interroger des gens à la Sarthe et tout, et tout le monde dit on l'a pas vue ou elle fait rien et tout. Et c'est là que, d'ailleurs, elle dira plus tard, dans un interview qui sera télévisé, je ne suis pas l'assistante de mon mari. Alors que voulez-vous savoir?
Pas de timing.
Pas de timing et pas de
feuilleton. On sort les infos quand on les a, on les retient pas.
Et pas de feuilleton, de feuilletonnage, parce que les petits camarades de Mediapart, du Monde, de Libération ou d'ailleurs, ils sont aux aguets et ils pourraient les sortir avant nous.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une notion de concurrence qui est importante. Arnaud Mercier, c'est comme ça. Effectivement, en France, il n'y a pas de rédaction, peut-être ailleurs dans le monde, si vous voulez apporter un peu de hauteur. Il n'y a pas de médias qui retiennent des infos, qui se disent on va faire comme ça en attendant, pas maintenant.
Si, ça peut arriver. Ça peut arriver pour deux raisons. On peut retenir parce que on n'est pas encore complètement sûr. Or, l'honneur du journaliste, c'est de ne publier que des choses. On a un exemple très très clair. Par exemple, au moment de l'affaire Monica Lewinsky, on sait que les journalistes.
Donc dans les années 90, l'affaire Bill Clinton, qui était alors à la Maison Blanche.
Voilà. Donc Bill Clinton a des relations sexuelles donc inappropriées. Je cite ces termes. Avec une stagiaire de la Maison Blanche. On sait que le Times, autant que je me souvienne, avait l'information, enfin avait là, oui, la, des le, éléments d'information,
on le va début dire, d'information, voilà. Donc
et qu'il ne les publie pas. Et c'est l'existence d'un blog, le Drudge Report, qui est un blog un peu poubelle. Hein, faut quand même dire les choses, que c'est au déshonneur du journalisme, donc c'est pas exactement du journalisme, mais il sort le truc. Et du coup, effectivement, Times a sorti les éléments qu'ils avaient en sa possession, mais au départ ils voulaient, vu l'importance d'une œuvre, ils voulaient être sûrs, ils voulaient vérifier, etc. Donc vous pouvez avoir ça déjà, et puis vous pouvez avoir tout simplement effectivement une enquête qui est menée parce que par anticipation vous savez que, et vous la sortez quand même au bon moment, par exemple, puisqu'il faut vendre, puisque donc par exemple on pourrait très bien imaginer que si François Fillon était apparu comme un des réels favoris de la primaire, or il était l'inattendu, on aurait pu commencer des enquêtes plus tôt. Vous voyez ce que je veux dire?
Voilà, c'est aussi parce qu'il a émergé tard qu'on s'est intéressé tard à qui il était.
C'est comme ça que ça se passe.
Comme Macron.
Où finalement, je suis absolument certain qu'aujourd'hui, des journalistes, depuis quelques semaines, cherchent des choses sur Macron parce que on a tellement dit Macron, c'est une bulle, il va exploser, c'est rien, c'est du vent, etc., que sans doute certains ne se sont pas préoccupés de son sort. Or, aujourd'hui, je suis absolument certain qu'il y a des journalistes qui sont en train de fouiller, et s'ils arrivent à sortir quelque chose juste avant la présidentielle, ils le feront.
Ils le sortiront, ils retiendront pas l'info, c'est ce que vous pensez. Alors, il y a quand même une question aussi qu'on a entend, c'est finalement cet amoncellement de révélations. J'en parlais tout au début, à chaque jour, presque à chaque semaine, sa nouvelle révélation. Ça pose aussi le problème de l'impact sur le vote à terme, une éventuelle poussée des extrêmes, un dégoût des électeurs. Est-ce que ça, c'est une question que vous vous posez, Claude Angéli, parfois, le côté, est-ce qu'on n'en fait pas trop? Est-ce qu'il vaut mieux pas qu'on dise pas tout? Pas parce que les informations sont à cacher, mais parce que ça pourrait donner une idée, je sais pas réaliste de la classe politique. Rappelons que la grande majorité des élus ne sont absolument pas corrompus et n'ont aucun problème judiciaire, Claude Angéli.
Mais ça fait des années que nous publions des révélations, que d'autres en publient aussi. Et que voulez-vous que l'on fasse? Que l'on garde des choses secrètes? Ça serait contraire à cette profession. Je parle pas des plaisirs du journalisme, là, mais c'est contraire à tout. Je veux dire, c'est scandaleux même de ne pas révéler ce que l'on sait à juste titre, bien entendu.
Donc c'est plus le journaliste qui parle que le citoyen, finalement.
Si, le citoyen, c'est pareil. Hein. Ah, je suis désolé. Hein. Le journalisme ou le citoyen, il sait des choses. Il doit devenir un lanceur d'alerte s'il est citoyen. Il doit devenir journaliste s'il a... Disons, le média nécessaire.
Et vous les saluez, hein, d'ailleurs, ces journalistes citoyens lanceurs d'alerte dans votre livre. Arnaud Mercier, sur cette question, vous avez écrit une tribune, alors elle date du mois de septembre, hein, mais elle fait quand même écho, en tout cas dans son titre, c'était sur Atlantico, la multiplication des tempêtes juridico-politico-médiatiques finit-elle par abîmer la démocratie? C'est le sentiment que vous avez en ce moment, que toutes ces révélations, elles abîment la démocratie, ou au contraire, elles montrent qu'elles fonctionnent, puisque les affaires sortent, puisqu'il y a une justice?
Pardonnez-moi, ceux qui abîment la démocratie, ce sont les hommes politiques.
Mais c'est, vous m'enlevez les mots de la bouche, c'est-à-dire que ce n'est pas l'affaire qui pose problème, c'est le fait qu'il y ait matière à affaire. Et donc, alors évidemment, mais ça c'est un fait qui est indéniable, le fait que les journalistes fassent leur travail et publient des choses qui sont des choses, dans un certain nombre de cas, peu avouables et peu recommandables, eh ben oui, ça entretient le dégoût de la politique. Mais est-ce que c'est la faute des journalistes ou est-ce que c'est la faute de ceux qui ont offert sur un plateau, enfin pas tout à fait sur un plateau, parce qu'il a fallu gratter plutôt, mais ceux qui ont essayé de cacher ce que les journalistes ont réussi à révéler. Vous voyez, par exemple, dans l'affaire Fillon, ce qu'il y a de très intéressant, je trouve, dans toute cette affaire, c'est le nombre de fois où le système de défense de François Fillon était « et alors ?» Eh ben, c'est-à-dire que il y avait
ça fait beaucoup rire Claude Angéli qui en tousse.
Pour lui, il y avait une espèce de banalité de mais ça fait 30 ans que je fais ça. Pourquoi vous me le reprochez? Vous voyez ce que je veux dire? Je trouvais que
c'est un peu ce qu'a dit d'ailleurs François Bayrou quand il s'est rallié à Emmanuel Macron, hein, quand il a expliqué que le problème n'était pas tellement finalement les dérives dans la vie publique, mais le fait que les citoyens ne s'en émeuvent même plus.
Oui, enfin maintenant, justement, le climat... je crois qu'effectivement, d'une certaine façon, on a les hommes politiques qu'on mérite. Je pense que pendant longtemps, les Français ont été relativement tolérants vis-à-vis d'un certain nombre de choses, et qu'aujourd'hui, le climat moral, intellectuel a changé, qui fait que c'est devenu moins acceptable pour des tas de raisons, la crise économique, la dureté du temps, enfin bref, tout un tas de choses. Mais je pense pas que ce soit l'ampleur des dérives politiques qui ait beaucoup augmenté, vous voyez. Je pense que même il y a eu des éléments de moralisation de la vie politique déjà depuis un bon moment. Il y a eu des lois déjà depuis Michel Rocard quand il était Premier ministre. Bon. Donc,
plutôt que ça sort. Donc finalement, bon signe.
C'est l'acceptabilité sociale qui a changé et qui fait qu'aujourd'hui, le même fait par rapport à il y a 20 ans est beaucoup moins acceptable globalement dans la société que ça ne l'était.
Claude Angéli, il ne reste même pas une minute, mais vous êtes d'accord avec cette analyse?
Oui, absolument. Mais on ne peut pas reprocher à la presse, s'il y a des votes extrémistes, je pense au Front National, de gens dégoûtés par ce qu'ils voient. Prenons Bruno Le Roux, qui embauche comme assistante parlementaire une demoiselle de 15 ans et une autre de 16 ans.
Voilà, donc pour vous, le problème n'est pas dans le traitement médiatique d'une telle affaire, mais le fait qu'elle
arrive. Il était ministre de l'Intérieur et socialiste.
Et il a été démissionné en moins de 24 heures. Cette fois-ci, c'est allé très vite. Merci beaucoup, messieurs. C'est déjà la fin de ce débat. Merci donc à Claude Angéli, ancien rédacteur en chef au Canard Enchaîné, co-auteur avec Pierre-Édouard Deldic des Plaisirs du journalisme chez Fayard. Merci à vous, Arnaud Mercier, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'IFP et à l'université Panthéon Assas. Vous êtes l'auteur de Médias et Opinion Publique au CNRS Édition 2012. Merci également à Florence Ponce, à Quentin Bresson. On se retrouve mercredi pour un nouveau débat. RFI. Parlez-vous Paris.